Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir, rendez-vous mensuel dans Variation. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouge, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Oui, salut Guy.
Et je me suis trompé, tu n'es pas au téléphone avec nous depuis la capitale, mais depuis la campagne...
Argenton-sur-Creuse.
Voilà, dans la Creuse. Donc Hervé, réédition au sommaire de ce Variation en noir ce mois-ci, et donc découverte ou redécouverte. Nous allons tout d'abord parler de Joseph Bialo-Broda, 1923-2012, connu des amateurs de polar sous le nom de Joseph Bialo, et auquel, à l'occasion du centenaire de sa naissance, la Série Noire et la Manufacture de Livres rendent hommage en donnant respectivement une nouvelle vie à l'incontournable Série Noire, le Salon du Prêt-à-Saigner, et à son aussi remarquable qu'émouvant récit autobiographique « C'est en hiver que les jours rallongent ». Et puis nous parlerons d'Albert Vidali, 1913-1971, avec cette très bonne idée de la collection Lampe-Tempête des éditions L'Échappée, de nous faire découvrir, tout au moins en ce qui me concerne, cet étonnant roman publié en 1954, Les Bijoutiers du Clair de Lune. Hervé, Joseph Bialo, très bonne idée hein, de la Série Noire des éditions Gallimard de reproposer ce roman sorti en 1978, le Salon du Prêt à Saigner. Alors dans une nouvelle collection, on peut quand même le signaler pour commencer, de Série Noire Gallimard qui s'appelle Le Classique. Et donc je pense que 4 ou 5 livres vont sortir chaque année dans cette collection qui a pour objectif de donner à découvrir, redécouvrir des classiques de la Série Noire. Donc la première livraison, on a deux romans de Raymond Chandler avec une nouvelle traduction et puis aussi des présentations vraiment intéressantes de ces romans. Et donc voilà, la Série Noire a aussi décidé, sa directrice, de nous proposer ce livre de Joseph Bialo, Le Salon du Prêt à Saigner, avec une préface, c'est à noter, inédite, de Tonino Benacquista. Hervé, peut-être un petit mot sur la collection d'abord, Hervé, classique de la Série Noire.
Ah ben, ça me paraît effectivement une très bonne idée de faire revivre des livres du catalogue. Alors évidemment, Chandler, ça c'est pas quelqu'un d'oublié, mais c'est bien d'avoir enfin fait retraduire les textes qui étaient dont les traductions étaient dues à Boris Vian et Micheline Vian, qui avaient tout l'intérêt d'être vianesque, mais peut-être pas l'intérêt d'être très fidèle au style de Raymond Chandler. Et donc, c'est très bien. Et puis, de faire redécouvrir Joseph Bialo. Alors, à travers deux romans, je crois, parce qu'il y a Le Salon du Prêt-à-Saigner dont tu parles, et Babelville, qui l'a suivi l'un an après, et qui sont deux titres absolument majeurs de Joseph Bialo. Peut-être dire un mot de leur quand Le Salon du Prêt-à-Saigner est publié en 78.
Oui.
C'est très, pour moi c'est vraiment très important parce que il y a eu Jean Vautrin avec Billy the Kick, il y a eu Hervé Prudhon avec Mardi Gris, mais en fait on est avant qu'éclose ce qu'on a appelé après le néo-polar, c'est-à-dire avec les Fajardi, Puy, Daninx, Marc Villard, etc. Et c'est Biallo, c'est des gens qui font, qui donnent un coup de neuf et branché sur l'époque à la série noire qui nous avait habitués à ces histoires du milieu, tout ça, qui avait pas mal baigné là-dedans. Je parle de la série noire, auteurs français. Et avec Biallo arrivent ces quartiers, dans le Salon du Prêt-à-Saigner, il nous fait vivre le quartier du Sentier de l'époque, dans Babelville, le quartier de Belleville. Et à la fois, ça amène... Biallo, c'est un arpenteur de ces quartiers à l'époque encore populaire de Paris et qu'il nous fait vivre. Par ailleurs, il nous montre aussi des personnages issus du monde du travail. Il fait vivre vraiment ce Paris populaire. Et puis, il fait revivre aussi ce qu'on pourra appeler les fantômes du passé, c'est-à-dire le Paris des communards, le Paris des déportés, des fusillés, le Paris de la résistance. Et c'est vraiment... C'est tout ça avec une ironie toujours mordante, un humour qui est propre à Joe Biallo, et c'est remarquable.
Oui, alors oui, pour situer, tu disais, on est un peu après Manchette, hein, qui a quand même signé le renouveau du polar, du roman noir français à la série noire, mais on est avant cette fameuse génération que tu évoquais, avec des auteurs emblématiques comme Denax, Pouilly, ou Jonquet. Mais alors c'est étonnant parce que donc nous sommes en 1978, hein, mais Joseph Biallo a 55 ans, hein, déjà, et donc alors c'est une nouvelle plume du polar français, mais d'un auteur pas si jeune que ça pour un premier roman. Alors il faut dire qu'il y a un sacré vécu, on va y revenir, hein, bien entendu, mais il s'est mis à écrire assez tard, Joseph Biallo.
Oui, il s'est mis à écrire assez tard. Comme tu le disais, il est né en 23, il est né à Varsovie, Joseph Biallo Broda, de son vrai nom. Et il est arrivé à Paris en 1930. Il ne parlait pas à l'époque le français. Il est allé à l'école dans ce quartier de Belleville, dont il va se faire l'écrivain, qui va nous raconter. Et puis, il va y avoir évidemment l'occupation. Il va être, si je me souviens bien, c'est à Grenoble qu'il se fait rafler alors qu'il est dans un groupe de résistants communistes. Et donc il va aller à Auschwitz, ça on va en reparler tout à l'heure. Et puis, puisqu'il y survivra, il va travailler dans le quartier du Sentier, ce quartier du prêt-à-porter à l'époque, dont son premier roman est un superbe témoignage, hein, par ailleurs, Le Salon du Prêt-à-Saigner. Mais il rêvait d'être journaliste. En fait, il va se mettre à l'écriture un peu sur le tard, mais il ne va pas arrêter, puisque je crois qu'il va écrire au moins une trentaine de livres jusqu'à sa disparition. Et c'est bien parce que tu citais Jean-Patrick Manchette à très juste titre. Et quand sont sortis Le Salon du Prêt-à-Saigner et Babelville, Manchette, dans une de ses chroniques, a salué de manière très appuyée Joseph Biallo, alors qu'on sait que pour les Français, Manchette pouvait avoir la dent dure. Mais il nous disait, riche d'expérience, Biallo parle d'un Paris qui s'en va, exterminé par l'urbanisme et la redistribution des catégories sociales sur le territoire, le Paris populaire où se côtoyaient les prolos et les petits commerçants. Cela rejetait désormais à la périphérie lointaine. Et il ajoutait, Maître Joseph, qui au reste a du goût et un grand talent pour les scènes de violence extrême, est enfin un styliste, c'est une denrée rare.
Oui, alors revenons au Salon du Prêt-à-Saigner, hein, série noire de réédité dans la collection classique. Donc il y a une immersion, bien entendu, alors on est à la fin des années 70, hein, entre parenthèses, Biallo évoque encore la possibilité pour un de ses personnages voilà, d'être condamné à mort, de passer à la guillotine. Hein. Ça, c'est pour resituer au niveau du contexte.
Encore à la peine de mort n'est pas abolie.
Tout à fait.
Absolument.
Et donc une immersion dans ce quartier, et puis dans ce milieu de la confection, hein, de la confection de masse avec les sous-traitants, des sous-traitants, etc. Enfin bon, on voit qu'il connaît. Mais tu l'as dit, hein, donc un style, alors beaucoup d'ironie. J'ai redécouvert hein, ce roman. On est entre Westlake, Donald Westlake et Frédéric Dard hein, par moment. Il y a vraiment des formules, des jeux de mots. Mais j'allais dire, avec une dose de violence, quand même, qui est assez brute, quoi, hein, notamment du côté criminel.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a aussi voilà, c'est ça, c'est ce balancement qui est fort, de même que quand il décrit par exemple un meurtre à l'arme blanche, la gorge là où la lame prend racine, enfin bon, il a des formules qui sont d'une poésie tragique très forte. Oui.
Ah oui, c'est vraiment c'est noir. Alors donc on peut passer de jeux de mots assez du type San Antonio, puis il y a quand même des figures, des belles figures de style. Hein. Le miroir sur le mur se volatilisa, remplacé par une immense draperie faite d'orchidées rouges. Donc on sent vraiment voilà quelqu'un qui écrit, quoi, qui raconte une histoire, mais qui aussi est très soucieux du style de la forme. Alors ce roman, on peut le signaler, il a obtenu le grand prix des littératures policières.
C'est ce qui était quand même c'est un des plus grands prix à l'époque, c'est le prix majeur peut-être, et il l'obtient pour ce premier roman parce que immédiatement ça force l'admiration. Et moi je me souviens de la sortie de ce livre, ça a été quand même tout de suite un événement, en tout cas pour les lecteurs de polar, de romans noirs. C'était il y avait une revue qui s'appelait Gang qui lui a consacré tout de suite des pages. François Guérif s'y est intéressé de son côté, qui publiera un des derniers romans de Joseph Biallo. Enfin, c'était ça a été vraiment très fort. Oui.
Et un titre donc un titre saignant, le salon
voilà.
Du prêt à saigner. Voilà.
On peut le dire. Oui.
Et alors s'en suivront Hervé plus de 20 romans policiers, mais aussi des romans historiques nous dit Tonino Benacquista s'entremêle toutes ses passions hein, pour Paris, son peuple, pour l'histoire et par-dessus tout pour le romanesque. Et donc nous en arrivons à ce qui n'est pas un roman, on va dire que c'est un récit autobiographique écrit il y a 80 ans, vraiment à la fin de sa vie, la manufacture de livres a eu aussi la très très bonne idée de rééditer. C'est en hiver que les jours rallongent, hein, donc à la manufacture de livres. Et là, c'est un récit autobiographique de la période où Joseph Biallo, enfin que Joseph Biallo a passé à Auschwitz, c'est surtout sa sortie d'Auschwitz, puisqu'il en est un des survivants. Bon, c'est un aspect important aussi hein, de son parcours, et c'est vraiment un récit moi j'ai découvert hein, c'est un récit particulièrement émouvant, fort, mais c'est enfin, une construction très subtile. Hein, nous en parlions pour préparer cette émission. Moi, j'ai été vraiment étonné parce que Biallo nous laisse vraiment respirer dans ce roman. On sait d'entrée de jeu qu'il s'en est sorti d'Auschwitz parce que ce récit débute, oui, c'est un récit, hein, pas un roman. Ce récit débute par la libération, la sortie d'Auschwitz et le parcours très compliqué hein, pour les personnes qui se retrouvent d'un seul coup libérées et qui ont mis du temps. Hein. Je pense que c'est plus de 3 ou 4 mois avant de rentrer en France avec des sacrées péripéties. Et à chacune de ces péripéties, pour Biallo, c'est l'évocation de moments de la vie du camp. Et là, donc, il nous emmène dans le dur hein, de scènes vraiment très 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 dures hein, qu'on peut imaginer on ne peut pas imaginer mais de la vie de ces camps, Hervé.
Bah oui, c'est tout le prodige de ce livre et de sa construction, comme tu dis, parce que après une introduction où il nous parle des récits sur la déportation qui ne sont pas entendus et de l'immense difficulté, notamment il parle de films, mais enfin à rendre l'indicible des camps de la mort. Si je me souviens bien, le récit commence, on est en mai, alors que le camp a été libéré par l'armée rouge en janvier, d'où le fait que c'est en hiver que les jours rallongent. Et il est à bord du, je crois que c'est le Bergensfjord.
C'est ça, ouais.
Voilà.
Il quitte Odessa le 2 mai 1945.
Voilà, et il va, et cela va permettre cette construction très, très, très subtile, mais qui n'est pas chargée non plus, hein, qui n'est pas. Elle va permettre de rappeler. Tous ces moments d'horreur, mais aussi de survie à travers, il y aura des retours sur des tas de dire anecdotes, c'est terrifiant, donc on ne va pas dire ça, mais des tas de moments vécus au camp d'Auschwitz, des évocations de beaucoup de personnes, qui est une manière de leur rendre un peu de vie et de dignité surtout. Et ça va, cette construction avec l'après et puis le retour, ça va permettre aussi justement d'arriver à l'évoquer sans qu'il y ait un pathos. Joe Biallo, il évite toujours ça. C'était déjà sa marque. Il y a à la fois énormément d'émotions et il continue à pouvoir garder un peu d'humour, un peu de. C'est absolument bouleversant. Et il y a aussi parmi de multiples scènes qui sont à la fois très émouvantes, terrifiantes ou très belles et tout, il y a parmi les très belles, il y a Odette, l'amour de personnes qui ne vont pas se toucher, mais qui vont être entrevues, Odette qui sert du café et dont pendant 8 jours, il va y avoir, sans que des choses se disent réellement, il va y avoir une espèce d'amour entre les deux êtres au milieu de ce camp terrifiant de où la mort est à rôde à chaque instant, et puis la mort, les tortures, les humiliations, il y a un livre, je crois, si je me souviens bien, de Joe Biallo qui s'appelle Le Semeur d'étincelles, et il y a toujours comme ça des étincelles.
Oui, et donc il évoque bien sûr hein, des moments, des personnes hein, qui ont fait vraiment acte de courage, de bravoure, vous la voyez, notamment des femmes. Hein, il cite aussi la sainteté de Malala Belge qui est condamnée à la pendaison pour s'être évadée et qui la corde au cou dans un dernier sursaut s'ouvrit les veines devant tout le camp rassemblé, gifla et barbouilla de sang le visage du chef de camp SS, le Lagerführer. Oui. Mais c'est vraiment fort. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est dans son introduction, il explique un petit peu ce qui a déclenché la mise sur le papier de ce récit. Il voit un film sur à la télé, La mort est mon métier, un film tiré de l'ouvrage de Robert Merle, et un détail l'impressionne, il y a des arbres à Auschwitz, et donc il se dit, mais où ont-ils donc tourné? Ces arbres n'existaient pas à Auschwitz. Et puis, il a un éclair de mémoire, il y avait des arbres au camp, mais ils venaient d'être plantés, de jeunes arbustes, encore soutenus par leur tuteur, et plus de 40 ans après, ils étaient montés à l'assaut du ciel. Alors, le lendemain de ce film, étonné de sa découverte, il appelle une amie, une ancienne de Bergen-Belsen, et sa réponse arrive d'un jet. Que veux-tu ? Les arbres ont poussé après notre mort. Et c'est vraiment, je pense, le fil conducteur aussi de ce récit, c'est que, c'est une loterie. C'est quand et quelques-uns, une infime minorité s'en sont sortis, mais il reste accompagné de tous ceux qui n'ont pas survécu. Et ça, tout au long de ce récit, on le sent, Hervé.
Bah, on le sent tout au long, et à la fin, dans un chapitre de clôture, Joseph Bialo dit qu'il a compris que tous les rescapés des camps étaient des schizophrènes, et il précise, j'entends, schizophrène en son sens étymologique, l'esprit fendu, l'âme brisée. Et il va citer... des rescapés célèbres, hein, Primo Levi qui a écrit « Si c'est un homme, mais qui s'est suicidé », comment Bruno, le psychanalyste Bruno Bettelheim qui s'est asphyxié avec un sac en plastique, la maman de Art Spiegelman, le créateur du roman graphique, de la BD Maus. Voilà, suicidé aussi, c'est-à-dire cette impossibilité. Et justement, j'avais vu que François Maspero, le célèbre écrivain et éditeur, avait écrit que c'est en hiver que les jours rallongent pouvaient être mis au même rang que ces livres rares et si précieux que comme si c'est un homme de Primo Levi ou comme Anthelme ou comme David Rousset. Et voilà, c'est vraiment un livre à lire absolument.
Oui. Et donc, pour aller aussi dans cette direction-là, il écrit au quotidien, c'est seulement Auschwitz. Où il est à Auschwitz, où il était possible de vivre et de mourir en même temps. Alors, quand on lit ce livre, qui a été publié bien après le salon du prêtre à saigner, quand on lit les deux à la suite, comme nous l'avons fait hein, pour cette émission à l'occasion de ces rééditions, on cherche finalement dans ce que Joseph Bialo a écrit avant, hein, ce récit autobiographique, et notamment dans le salon du prêtre à saigner, des indices hein, sur son vécu dans les camps et donc il explique Joseph Bialo que effectivement il a évoqué aussi hein, cette période dans des romans et notamment dans La gare sans nom voilà oui. Hein, où il écrit nous sommes tous morts au lager tous un rescapé n'est qu'une apparence une illusion à face humaine qui continue à baiser à manger à travailler à penser comme une dent dévitalisée, elle est morte et continue sa fonction, mordre, dévorer, mais à l'intérieur c'est creux, vide. Donc, effectivement, dans le salon du prêtre à saigner, il y a une violence, une forme de barbarie, hein, même d'un personnage là qui forcément fait évoquer ce récit autobiographique. Je ne sais pas si toi tu l'as ressenti, Hervé.
Oui, je pense que la violence de certains personnages, là où dans, et puis dans Babelville, il y a aussi, évidemment, comme ça se passe à Belleville, il y a les fantômes de la commune, mais sur le côté, comment dire, de cette idée de révolte ouvrière, de résistance chère à Joe Biallo, mais il y a aussi les fantômes des déportés, des assassinés, voilà, de tous les juifs raflés. Et il est évident qu'il y a comme ça, dans la violence barbare qui peut parfois apparaître, cette violence extrême qu'on a citée, que tu viens de rappeler, et aussi dans ces fantômes du passé, il y a bien évidemment déjà les romans de Joe Biallo, contrebalancés par son humour, ils sont hantés déjà par tout cela, mais il a, comme tu dis, je crois qu'il dit avec une forme d'humour, il dit qu'il lui a fallu 25 ans une psychanalyse pour arriver à écrire C'est en hiver que les jours allongent et à mettre des mots sur ce qui n'a jamais cessé de le hanter.
Bah oui. Donc voilà, donc on signale et on conseille fortement la lecture de Joseph Biallo, Le Salon du Prêt-à-Saint-Denis en série noire, dans une nouvelle collection qui est toute belle et qui est en plus abordable, 12 euros, mais vraiment un travail éditorial de confection du livre soigné, pour utiliser un mot cher à Joseph Biallo. Et puis donc aussi cette réédition très importante, C'est en hiver que les jours rallongent, de Joseph Biallo à la manufacture de livres.
Le vivre se foutait de tout, leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris, mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue leu-leu. Dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille, dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et voilà qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups, oh, 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 de loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris, oh, tu peux rire, charmante Elvire. Sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans nous, sans l'eau sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. Sans l'eau sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Sans l'eau sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que trois pattes. C'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants. Il leur offrit six ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, loup, oh, oh, les loups ont envahi Paris. Soit par ici, soit par Évry, les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cent faire Carousse, Liesse et Bonvence dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, oh, 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 les loups sont sortis de Paris. Soit par ici, soit par Ivry, les loups sont sortis de Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire, les loups sont sortis de Paris. J'aime ton rire, charmante Elvire, les loups sont sortis de Paris.
Vous écoutez Radio PFM, Variation en noir, et nous venons d'entendre et d'écouter Les loups sont entrés dans Paris, avec une magistrale interprétation de Serge Reggiani, mais une chanson, j'ai appris ça bien tout récemment, écrite par un certain Albert Vidali. Alors bien sûr, on est dans le prolongement du récit de Joseph Biallo, consacré à cette sombre période de l'histoire, avec en plus un texte aussi, Hervé, de cette chanson, Les loups sont entrés dans Paris, qui rappelle quelque part Joseph Biallo, parce que c'est très très émouvant, c'est tragique, mais en même temps il y a de la poésie, il y a une touche même, il y a un peu d'humour, et donc on est complètement en raccord avec Joseph Biallo. Je ne sais pas comment tu as entendu, toi,
oui,
tu entends cette chanson.
Mon raccord, et qui plus est, quelle qu'ait été la volonté d'Albert Vidali, cette chanson, elle a été, en tout cas, interprétée comme une allégorie à la résistance, et une chanson qui, Les loups qui entraient dans Paris, c'était une métaphore pour parler de l'occupation allemande, et puis les loups sont sortis de Paris, et effectivement, et j'avais découvert aussi en regardant un peu que c'est une chanson qui a traversé les décennies et qui en mai 68 et dans les années suivantes a été très populaire auprès de la jeunesse contestataire. C'est un peu un hymne qui contient à la fois de la force, de l'émotion et de l'humour. Et en plus, c'était interprété par Reggiani, et comme je te l'avais dit, je m'étais souvenu que Reggiani a joué un rôle, le rôle d'un coiffeur, je crois, dans le film L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville, qui nous ramène aussi à cette période de la Seconde Guerre mondiale.
Un coiffeur chez qui se réfugie Lino Ventura, enfin le personnage joué par Lino Ventura, poursuivi par...
Oui, qui est chef d'un réseau de résistance.
Ouais, poursuivi par la Gestapo. Alors donc, Albert Vidali, c'est toi qui as attiré mon attention cet auteur, surtout le roman qui vient d'être réédité, Les bijoutiers du clair de lune, aux éditions L'Échappée, dans la collection qu'on a déjà évoquée dans cette émission, L'Encre Tempête, une collection dirigée par Jacques Beaujard, qui relance des ouvrages importants. Et celui-là est vraiment un ouvrage important, donc paru en 1954, épuisé depuis une trentaine d'années, mais voilà, qui reste un roman connu de quelques initiés et qu'il considère comme un roman très important de la littérature française, hein, des années 50. Alors Albert Vidali, on peut dire, hein, dans la présentation de l'éditeur, ami de Jean Giono et de Georges Arnaud, fréquentait les mêmes comptoirs en zinc que Robert Giraud, Paul Guimard ou encore Antoine Blondin et Roger Nimier, autodidacte, franc-tireur des lettres françaises, rude conteur de l'âme humaine, la formule est jolie. Il est l'auteur de 9 romans et recueils de nouvelles. Alors, c'est aussi un homme de radio et parolier hors pair, donc les loups sont entrés dans Paris, bien écoutez, il a aussi écrit Actualité pour Yves Montand, etc. Donc c'est une découverte. Je suis allé voir Hervé dans le dictionnaire des littératures policières, il n'y est pas, Albert Vidali, parce que on n'est pas vraiment dans ce type de littérature, même si Les Bijoutiers du Clair de Lune sont présentés comme un roman de contrebande,
de contrebande. Oui, il y a quand même il y a un meurtre, voilà, et il y aura une fin. Comment dire, une certaine justice se produira dans les dernières lignes, on ne racontera pas. Mais par ailleurs, il n'est pas dans le dictionnaire, mais il est préfacé par Pierre Macorlan, alors qui est le romancier que l'on sait, qui est aussi quelqu'un qui était très attentif aux littératures policières, puisque Macorlan, il était dès 1930 juré du prix du roman d'aventure qui avait été créé par autour de la collection Le Masque. Hein, voilà, il a, je crois que c'est un an avant ou après le livre Les Bijoutiers du Clair de Lune, il a aussi préfacé Touché pas au Grisby d'Albert Simonin. Il avait beaucoup défendu, soutenu Pierre Véry, et Macorlan, à un moment, il dit dans la préface qu'a la bonne idée de reproduire l'échappée, Albert Vidali, à mon goût, est un des principaux écrivains nettement français de notre temps. Lui et Antoine Blondin sont de ce groupe aux éléments rares qui savent donner à un mot, à un paysage, à une silhouette humaine, le rayonnement imprévu qui permet de constater que la vie n'est pas exempte de lyrisme et que la poésie quotidienne est aussi difficile à comprendre que la saveur d'un morceau de pain. Un détail secret pour ceux qui n'ont pas crevé de faim, comme on dit, ou qui n'ont pas été mêlés personnellement aux nuances mystérieuses qui bouleversent un paysage sentimental, mais d'une sentimentalité assez cultivée. Et je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais il y a une écriture assez merveilleuse tout au long des Bijoutiers du Clair de Lune. Il y a cette très belle histoire d'amour qui est tragique aussi, de la cavale un peu qui se met hors du monde, du bandit de grand chemin Lambert et de la jeune Louvette. C'est avec leur escapade dans une nature qui est assez superbement évoquée, et les êtres qu'ils croisent, enfin voilà, c'est un livre que je trouve enchanteur au sens fort du terme.
Oui, alors tu t'évoquais Pierre Macorlan, qui est l'auteur de Quai des Brumes, quand même, une référence.
Oui, bien sûr, Bandera, Quai des Brumes, voilà, absolument.
Et des Brumes, il en est aussi question dans le roman, je trouve, de Albert Vidali. Pour donner le ton quand même, il dédie son roman à Georges Arnaud, Mon copain, ouais. Et je trouve que ça donne bien le ton, quoi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des romans qui sont dédiés comme ça à quelqu'un, une personne que l'on présente comme son copain, et ça donne bien le ton de...
L'auteur du salaire de la peur.
Voilà, c'est oui, ça, oui. Hein, de, mais ça donne le ton, de, je trouve, ce mon copain. Et, alors,
oui, tout à fait.
Et moi, tu vois, alors, bon, c'est vrai que, alors, les bijoutiers du clair de lune, bon, Pierre-Marc Roland l'explique, hein, ce sont des bandits de grand chemin qui dévalisaient des représentants de commerce, hein, au 19e siècle et notamment ceux qui transportaient des bijoux, des montres, etc. Donc on a tout ça, mais pour moi avant tout c'est un, j'ai envie de dire, bon c'est peut-être une formule éculée, mais c'est un roman d'amour, les bijoutiers, oui. du clair de lune, parce que c'est une histoire vraiment très forte. Et moi, alors ça se passe au 19e siècle, hein, je pense, deuxième
oui,
moitié.
Au milieu du 19e ouais. siècle, dans ce qui s'appelle à l'époque le Hurepoix, qui est globalement, oui. C'est pas tout à fait ça, mais enfin ce serait les Yvelines aujourd'hui.
Ouais, c'est pas très loin de Paris. Hein, c'est...
Avec Dourdan, Dourdan comme grande ville, ouais. Enfin voilà, oui, c'est cela.
Et moi, certaines scènes m'ont fait penser, j'ai relu récemment du Zola, et notamment à la faute de l'abbé Mouret, ouais. et ces scènes dans la nature, hein, bon, puisque ce couple que tu as évoqué s'échappe, hein, fuit, ils vivent dans la nature qui occupe une place très importante. Et Mouret, l'abbé Mouret de Zola, c'est pareil, la nature occupe une place vraiment très, très importante. Et donc, moi, j'ai trouvé vraiment un lien. Alors bon, c'est pas du Zola, hein, bien sûr, hein, mais parce que c'est écrit bien après, mais c'est vraiment... moi, j'étais impressionné, hein, par ce texte, et il faut vraiment le découvrir, Hervé.
Ah oui, 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 c'est sans faire de jeu de mots, enfin, ou en faisant un, c'est un petit bijou quand même, c'est-à-dire que toute phrase est assez merveilleuse, c'est tout ça, et comme tu dis, par ailleurs, c'est un roman criminel, mais c'est aussi un roman d'amour, de fraternité, et où, effectivement, il y a un panthéisme, enfin, la nature est très, très importante, elle joue un rôle qui n'est pas un rôle de décor, elle va être justement l'écrin de cet amour qui sera forcément éphémère, mais oui.
Voilà, en tout cas, bravo à Jacques Bogère. Hein,
la collection L'Homme Tempête de Jacques Bogère à l'échappée fait vraiment un très beau travail, à mon avis. Oui. Voilà, depuis pas loin de 10 ans, je crois, mais d'avoir d'abord fait...
Oui, c'est ça, ça a commencé en 2012. Ouais.
Et puis après, je ne sais pas, Ringo Lévio, Samedi Soir, Dimanche Matin d'Alain Tito.
Voilà. Et non, vraiment à conseiller. Ouais. En plus, un beau livre aussi, hein, je pense, une belle couverture, une belle présentation.
Belle couverture, présentation très soignée. Oui, voilà. Tout à fait.
Donc, nous vous recommandons, Hervé, Les bijoutiers du clair de lune d'Albert Vidali aux éditions L'Échappée. Et puis, bien sûr, hein, répétons-le, Joseph Biallo à lire et à relire. C'est en hiver que les jours rallongent.
Il y a des rééditions qui sont importantes, qui sont incontournables.
Voilà, oui. Et le salon du prêt à saigner. C'était Variation en noir dans Variation, une émission mensuelle de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir. À bientôt. Bonne lecture à toutes et tous.
Voilà, et rendez-vous dans un mois.